Le Salon Noir se consacre aujourd'hui à une des trois plus puissantes civilisations de Méditerranée occidentale, la plus ancienne de l'actuelle Italie, à une culture raffinée dont le rayonnement dépassa bien les frontières de la péninsule, la société étrusque. Occultée par la puissance de Rome, les étrusques posent toujours problème aux archéologues. Pour preuve, on parle encore de mystère à propos de leur langue ou de leur origine. Directeur du département des sciences de l'Antiquité de l'École normale supérieure, Jean-Paul Tullier, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier un gros ouvrage aux éditions du Chêne, un très bel ouvrage tout simplement intitulé « Les Étrusques » et qui nous servira aujourd'hui donc de fil conducteur. Jean-Paul Tullier, puis-je dire que vous êtes étruscologue ?
Eh bien, de même qu'il y a une discipline qui s'appelle l'égyptologie, on parle depuis plusieurs décennies de l'étruscologie, et d'ailleurs les deux civilisations ont souvent été rapprochées, et en ce sens, oui, je puis dire que je suis étruscologue, même si je m'intéresse à d'autres sujets, comme l'histoire du sport antique, par exemple.
Et on peut dire aussi que c'est une société qui a intéressé très tôt les antiquaires et les archéologues et historiens.
Oui, elle a intéressé très tôt toutes ces catégories, mais on peut même dire qu'elle a intéressé depuis l'Antiquité elle-même, et beaucoup d'auteurs se sont penchés justement sur ce qu'ils n'appelaient peut-être pas encore le mystère étrusque, mais c'était à peu près la même chose.
Ah, il nous faut atteindre la Toscane pour découvrir les Étrusques.
Alors oui, puisque le cœur de l'Étrurie, c'est la région qui est comprise entre l'Arno, le fleuve Arno au nord, c'est-à-dire la ligne Pise-Florence, le Tibre à l'est et au sud, et la mer Tyrrhénienne à l'ouest, la mer Tyrrhénienne qui veut dire d'ailleurs la mer étrusque. Ça, c'est vraiment le cœur de l'Étrurie, et il y a eu des excroissances, on pourrait dire des colonies, dans la plaine du Pô, dans la vallée du Pô, Bologne, Mantoue sont des cités étrusques très importantes, et au sud, toute la Campanie, une grande partie de la Campanie autour de Naples et de Capoue, Pompéi elle-même a été étrusque, donc toute cette région a été étrusque ou étrusquisée, donc une grande partie de l'Italie, en tout cas toute l'Italie centrale, c'est sûr.
Alors je reviens sur la mer Tyrrhénienne, cette mer, c'est celle qui couvre une partie de l'Italie, bordée par la Corse et la Sardaigne, c'est bien ça ?
Voilà, c'est à l'ouest de la péninsule italienne, avec l'île d'Elbe, la Corse, la Sardaigne. Et de l'autre côté, comme on sait, l'Adriatique, qui a aussi des liens avec les Étrusques.
Les Étrusques ont connu leur période de gloire au 7e et 6e siècle avant notre ère, donc bien avant Rome.
Bien avant Rome, oui, c'est l'apogée, c'est ce qu'on appelle les siècles d'or de l'Étrurie, 7e et 6e siècle, et même début du 5e siècle. Et l'indépendance politique de l'Étrurie se termine en 264 avant notre ère. Ça n'est pas pour autant la fin complète de la civilisation étrusque d'ailleurs.
Existe-t-il une véritable unité étrusque ?
Alors c'est difficile de parler d'unité étrusque, là c'est vraiment un point fondamental. L'histoire de l'Étrurie, ça n'est jamais l'histoire d'un empire centralisé, homogène, comme peut l'être l'Empire romain. L'histoire de l'Étrurie, c'est l'histoire de cité-État, de plusieurs cités-États, une ville et un territoire, qui ont toujours une politique indépendante, une politique autonome, une production artisanale, artistique, tout à fait particulière, même s'il y a des liens qui permettent de parler d'un certain peuple étrusque, en tout cas.
Alors justement, on parle généralement et volontiers de cité-État. Il s'agit là d'un mode de fonctionnement particulier, original.
Alors les cités-États étrusques ressemblent quand même beaucoup dans leur fonctionnement à ce que sont les cités-États grecques. L'histoire de la Grèce antique, c'est aussi l'histoire d'Athènes, de Sparte, de Corinthe, d'Argos, etc. Il en est de même pour l'Étrurie. On pourrait aussi faire la comparaison avec les cités de la Toscane, les villes de Toscane à l'époque de la Renaissance, par exemple. Mais en aucun cas avec ce que peut être l'Empire romain ou les nations modernes.
12 cités, donc une dodécapole.
Voilà, ça c'est le chiffre, le nombre qui revient régulièrement dans les sources antiques. Parmi toutes les villes qui existaient en Étrurie, et la civilisation urbaine a été une réalité en Étrurie, il y avait un chiffre presque magique, si j'ose dire, qui était le chiffre 12, car il y avait une ligue, une fédération de 12 cités, donc comme vous l'avez rappelé, une dodécapole.
Des cités qui couvrent déjà beaucoup d'hectares, très tôt, on a des villes qui peuvent dépasser 100 hectares, c'est Déjà alors, très important pour les.
Voilà, alors il y a des. C'est assez difficile de déterminer les frontières de chaque cité, mais pour ce qui est des villes, et là aussi, les questions démographiques pour l'Antiquité sont souvent des questions extrêmement épineuses, mais on est certain qu'il y avait des villes qui pouvaient avoir effectivement plus de 100 hectares de superficie, et dont on pense qu'elle pouvait avoir une population de 20 000, 30 000, 40 000 habitants pour les plus importantes d'entre elles, ce qui est déjà beaucoup pour l'Antiquité.
Ces villes ont été fouillées, par exemple Orvieto, Pérouse, Volterra.
Alors les villes elles-mêmes, si l'on parle de l'habitat urbain, tout cela a été très peu fouillé par rapport aux nécropoles. C'est évidemment l'archéologie funéraire qui nous fournit, et de très loin, les renseignements, la documentation la plus importante pour la connaissance et pour l'histoire de ces villes.
Ça se compose comment, une ville étrusque, autour du 6e, 5e siècle, avant notre ère?
Alors justement, en fonction de ce que je viens de vous dire, c'est assez difficile. La seule ville que l'on connaisse vraiment, c'est un cas un peu particulier dans ce qu'on appelle l'Étrurie padane, c'est-à-dire l'Étrurie de la plaine du Pô, une ville qui en italien s'appelle aujourd'hui Marzabotto, près de Bologne, où l'on a appliqué en tout cas, à partir du 5e siècle, le système orthogonal, d'urbanisme orthogonal, de rues qui se coupent à angle droit, et donc ça veut dire des temples, ça veut dire une zone publique, mais ça on connaît très mal les zones publiques jusqu'à présent, et peut-être que les fouilles qui se développent maintenant permettront de mieux les connaître, et évidemment des îlots d'habitation selon un schéma plus ou moins régulier, mais dont on peut penser qu'il a été appliqué dans la plupart des grandes cités étrusques.
J'ai lu que ces centres urbains seraient essentiellement des cités religieuses.
Oui, je ne sais pas si le terme de cité religieuse doit vraiment être retenu. Ce qui est sûr, c'est que en Étrurie, la religion a été quelque chose d'extrêmement important. Ce sont tous les auteurs anciens, comme Tite-Live, par exemple, qui nous disent que les Étrusques ont été le peuple le plus religieux de tous. Et évidemment, cela voulait dire dans les cités des quartiers à vocation plus particulièrement religieuse. C'était le cas de Marzabotto à l'instant, où il y a manifestement tout le nord de la cité qui était entièrement à vocation religieuse, avec toute une série de temples, d'hôtels et de sanctuaires divers.
Alors au 7e siècle, avant notre ère bien sûr, le pouvoir est aux mains de princes.
Alors au 7e siècle avant notre ère, dans ce qu'on appelle la phase orientalisante de l'Étrurie, c'est effectivement une société dominée par des princes, et parmi ces princes, l'un d'entre eux devait être un roi, c'est-à-dire qu'on est dans une structure politique, un système institutionnel qui ressemble beaucoup à celui de Rome à la même époque.
Avec peu de classes moyennes, les classes sociales sont extrêmement réduites, du prince à l'esclave.
Oui, alors à cette époque, il y a certainement une dichotomie assez forte entre les classes dirigeantes, entre les milieux dirigeants et les classes inférieures, pourrait-on dire, sans parler de ceux qu'on appelle parfois les esclaves, mais on préfère employer le terme de dépendants parce que on n'est pas certain qu'un système d'esclavagisme classique ait existé en Étrurie. Mais cette dichotomie s'est quand même beaucoup tempérée avec les siècles, et on peut dire qu'à partir du 5e siècle avant notre ère, il y a des régimes de type républicain, exactement comme on les trouve à Rome, régime républicain de type aristocratique. Hein. De toute façon, on ne peut pas se cacher cet aspect.
Alors ce système politique républicain serait un emprunt justement à Rome?
C'est difficile de dire que c'est un emprunt, on peut plutôt dire qu'il y a eu une évolution parallèle. En réalité, Rome, par bien des côtés, dépend de l'Étrurie. C'est pas Rome qui a tout appris à l'Étrurie, bien au contraire. Donc en réalité, c'est plutôt une évolution parallèle que l'on peut constater. Ce que l'on connaît bien, ce sont les périodes un petit peu tardives grâce aux textes, et en particulier, il y a l'opposition à partir du 5e siècle entre Rome et la cité étrusque la plus proche, qui s'appelle Veii, hein, qui est à quelques kilomètres, à 17 kilomètres au nord-est de Rome. Et on voit que pour Veii, il y a à ce moment-là une période de flottement. Tantôt c'est un roi, tantôt c'est un régime républicain, qui choque d'ailleurs beaucoup les autres cités étrusques qui, elles, ont adopté définitivement ce régime républicain. Je dis républicain pour employer le terme romain en réalité, mais qui n'est pas le terme étrusque à proprement parler.
Géré donc par des magistrats qui appartiennent
à l'élite. Voilà, par des magistrats, et nous avons des noms de magistrats, nous connaissons plusieurs noms étrusques de magistrats, nous avons des cursus honorum de magistrats étrusques. le principal d'entre eux s'appelant un dzilat. Hein, c'est le mot, le dzilat. Alors, on parle souvent de prêteur, hein, de praetor, comme équivalent, mais en réalité, il s'agit du magistrat qui est au sommet de la hiérarchie administrative et politique en Étrurie.
La question des origines reste encore aujourd'hui largement débattue, même s'il ne faut, je dirais pas trop, il faut minimiser cela. L'archéologie apporte-t-elle beaucoup d'éléments à cette question ?
Et on ne peut pas dire qu'on ait fait beaucoup de progrès sur la question des origines. Et l'archéologie, là, malheureusement, peut difficilement, je crois, nous apporter une réponse définitive. Mais c'est vrai que les étruscologues aujourd'hui, pour reprendre ce terme, ont tendance à minimiser un petit peu ce sujet, non pas à l'abandonner, mais à le minimiser dans la mesure où ce qui nous semble à nous le plus important aujourd'hui, c'est l'histoire de l'Étrurie, c'est le développement de ce peuple étrusque, le développement de cette civilisation tout au long du premier millénaire avant notre ère. Si l'on fait des comparaisons avec le peuple américain ou même avec la France, la question des origines ne permet pas de tout résoudre. Peut-être que pour les Américains, on arriverait à retrouver toutes les origines de tous les Américains ou à peu près. Ça n'expliquerait pas pour autant le développement particulier d'une civilisation américaine. Et c'est donc en termes de formation plutôt qu'en termes d'origine que nous voyons les choses aujourd'hui.
Ce qui est intéressant, c'est que déjà les antiques se penchaient sur cette question. Les uns voyaient une origine autochtones, je pense bien sûr à Denis d'Halicarnasse, hein, et puis d'autres y voyaient une origine orientale.
Oui, bah la grande théorie, celle qui a été de loin la plus partagée dans l'Antiquité, c'était l'origine orientale des Étrusques, et c'est Hérodote qui nous en parle de la façon la plus étendue. Les Étrusques étaient censés venir d'Asie mineure, hein, de l'actuelle Turquie, de la région qui s'appelle la Lydie, plus exactement, et quand dans la littérature latine on parle des Lydiens, en réalité cela veut dire les Étrusques. Et Denis d'Halicarnasse, justement, est le seul, lui, à mettre en avant la thèse de l'autochtonie des Étrusques, qui aurait donc toujours été présent en Italie. Mais le problème est que derrière toutes ces théories, et ce ne sont pas les seules, il y a des présupposés idéologiques. Et donc, il ne faut pas les voir comme des affirmations scientifiques, même si elles sont plus ou moins étayées, plus ou moins argumentées, parfois de façon tout à fait satisfaisante du point de vue, je peux dire, des critères de la science moderne. Il ne faut pas croire que les anciens racontaient n'importe quoi par plaisir. Denis Halicarnasse présente les choses d'une façon assez scientifique, en tenant compte de la langue, en tenant compte des mœurs. Mais nous savons aujourd'hui que derrière ces thèses, il y a un certain nombre de présupposés idéologiques. Et donc, nous avons quelques doutes à ce sujet.
Autre grand thème, la langue et l'écriture. Si la première pose bien sûr des problèmes, l'autre est très bien connue.
Alors, la langue et l'écriture, bon, pour ce qui est de l'écriture, là nous lisons l'étrusque, là il faut insister là-dessus, puisque souvent les choses sont mal comprises. Nous lisons à peu près totalement les inscriptions étrusques, puisque à partir de 700 avant notre ère, l'étrusque a été écrit grâce à un alphabet grec, non pas l'alphabet grec, puisque nous en connaissons un, nous surtout, mais il y avait de nombreux alphabets. Donc les étrusques ont emprunté un alphabet qui était l'alphabet EB1, donc à partir de moins 700, et ils l'ont immédiatement adapté à leur propre langue, mais en gros, c'est un alphabet grec, une écriture grecque, et donc nous la lisons.
Avec des adaptations très étonnantes.
Oui, des adaptations étonnantes parce que les Étrusques, dans leur système phonétique, n'avaient pas besoin des consonnes sonores, et donc le B ne les intéressait pas, mais seulement le P et le G, le gamma grec, ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'était la consonne sourde correspondante, c'est-à-dire le K. Ils ont quand même gardé le gamma en troisième position avec cette valeur de K. Et comme les Latins ont repris ensuite l'alphabet étrusque, et comme notre propre alphabet est l'alphabet latin, eh bien nous nous retrouvons en troisième position, hein, A, B, C, avec en troisième position le C, comme dans cabine par exemple, ou dans case, avec le son K, et non pas avec le gamma grec, bien que ce soit l'alphabet phénicien puis l'alphabet grec qui ait été utilisé.
Donc notre alphabet doit ça aux Étrusques.
Voilà, donc nous parlons étrusque d'une certaine façon, même sans le savoir.
On écrit aussi de droite à gauche.
Alors, l'immense majorité des inscriptions sont, comme on dit, sinistro-vert, c'est-à-dire écrites de droite à gauche, mais il y en a quand même dans l'autre sens. Il ne faut pas attacher trop d'importance à ce fait, puisque il y a beaucoup d'inscriptions grecques, surtout à l'époque archaïque, qui sont écrites aussi de la même façon. Donc le sens de l'écriture n'est pas quelque chose d'absolument fondamental, même si ça ne doit pas être négligé, évidemment.
Alors dans votre livre, vous publiez une très beau document qui est la table de Cortone. C'est peut-être le texte le plus lisible, sur bronze, très spectaculaire.
Alors, oui, c'est une magnifique inscription qui a été trouvée récemment. C'est le plus beau document étrusque que l'on ait trouvé ces dernières années. C'est une magnifique inscription sur une plaque de bronze, sur les deux côtés d'une plaque de bronze, et écrit de façon tout à fait remarquable du point de vue esthétique, donc parfaitement déchiffrable. Et en réalité, c'est une inscription de 206 mots. Ce qui pour nous est quelque chose de très important, puisque c'est désormais notre troisième document étrusque pour ce qui est de la longueur.
Jean-Paul Tullier, la langue étrusque, elle, serait orpheline ?
Alors ça, c'est évidemment le grand problème. Toutes les tentatives qui ont été faites pour rattacher l'étrusque à une autre langue ont absolument échoué. On peut dire que l'étrusque reste une langue totalement isolée aujourd'hui. On est sûr que l'étrusque, même s'il y a encore quelques interrogations, que l'étrusque n'appartient pas à la grande famille des langues indo-européennes, hein, comme le latin, le grec et bien d'autres, pour des raisons à la fois de morphologie et de lexique, hein, sans trop développer cet aspect. L'étrusque est une langue de type agglutinant, ce que ne sont pas la plupart des langues indo-européennes. Et pour ce qui est du vocabulaire, il suffit de prendre les noms de parenté, les termes de parenté, fils, fille, etc., que nous connaissons bien, et les noms de chiffres que nous connaissons bien en étrusque aussi, pour se rendre compte que tous ces mots n'ont strictement aucun rapport avec les mots correspondants de la famille indo-européenne, que nous connaissons évidemment très bien par ailleurs.
D'où la difficulté pour les épigraphistes ou les archéologues de comprendre exactement ce qu'il en est.
On a cru, il y a quelques années, trouver une bilingue qui nous aurait quand même bien fait progresser. C'est ce qu'on appelle les lamelles d'or de Pyrgi, certaines étant écrites en étrusque et l'autre en phénico-punique, en phénicien. Mais malheureusement, on s'est aperçu que ça n'était pas une vraie bilingue, que les textes n'étaient pas tout à fait, étaient parallèles, mais n'étaient pas tout à fait les mêmes, et que le phénicien lui-même était traduit de façon différente par les spécialistes de cette langue, ce qui évidemment était difficile pour établir ensuite une comparaison. Mais nous faisons quand même régulièrement des progrès dans la connaissance de l'étrusque par vraiment un travail intrinsèque, par l'étude et la comparaison des inscriptions étrusques elles-mêmes, qui souvent ressemblent à d'autres inscriptions. Hein. Nous avons ce que l'on appelle les inscriptions parlantes, où l'objet s'exprime en disant « moi, je suis l'objet de telle personne » ou « moi, j'ai été dédié à telle divinité ». Toutes inscriptions que nous comprenons parfaitement, et en faisant ces rapprochements avec les inscriptions d'autres langues, nous arrivons à comprendre certains termes, et nous comprenons finalement beaucoup plus de choses que l'on ne pourrait le penser.
La langue et la religion sont les deux éléments fondant l'identité étrusque, une religion qui semble omniprésente au sein de cette société, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, avec des pratiques tout à fait là aussi étonnantes.
Voilà, donc ce que l'on appelle en latin le nomen etruscum, donc le peuple étrusque, n'avait pas d'unité politique, comme on le rappelait tout à l'heure, mais avait au moins cette unité de langue et de religion, encore que pour la langue, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de caractères particuliers dans chaque cité. Mais en tout cas, il y avait quand même une langue étrusque qui devait être comprise à peu près par l'ensemble des étrusques. Pour ce qui est de la religion, oui, c'était effectivement sans doute le principal ciment de ce peuple, en particulier parce qu'ils avaient un sanctuaire commun. La Ligue, la Confédération avait un sanctuaire commun qui, dans les derniers siècles, se trouvait dans l'actuel Orvieto, c'est ce que l'on appelait le Fanum Voltumnae, le sanctuaire de Voltumna. Et c'est vrai que dans cette religion, qui était donc très importante aux yeux de tous les contemporains de l'Étrurie, il y avait des aspects tout à fait particuliers, en particulier pour ce qui est de la divination et une pratique vraiment Voilà, l'aruspicine, des prêtres que l'on appelait les aruspices, qui voulaient découvrir la volonté des dieux en examinant les entrailles des victimes sacrifiées. Et c'est une pratique que les Romains récupéreront par la suite.
Voir par exemple le foie en bronze découvert à Plaisance, qui date des années moins 150, hein, et qui était tout à fait absolument exceptionnel là aussi.
Ah, ça, c'est une découverte comme on en rêve, effectivement, puisque là, on découvre cette maquette de foie de mouton en bronze, sur laquelle il y a toute une série de cases gravées, avec dans chaque case le nom d'une ou de plusieurs divinités. Et en rapprochant ce document de textes que nous avons par ailleurs, chez Pline l'Ancien, chez Sénèque aussi, eh bien, on arrive à reconstituer à peu près les choses et à comprendre que ce foie est un microcosme correspondant évidemment à l'univers, correspondant au ciel, qui était lui-même divisé en régions dans lesquelles habitaient les dieux.
Jean-Paul Tullier, passons au territoire des Étrusques. D'où tirent-ils leur puissance régionale ?
Alors, il n'y a pas une civilisation étrusque par hasard. On pourrait dire la même chose, à moins de croire que l'intervention divine suffit à fonder une civilisation. Ce sont évidemment les richesses de l'Étrurie, du sol et du sous-sol de l'Étrurie, qui ont permis aux Étrusques de développer cette extraordinaire civilisation au cours du premier millénaire avant notre ère. C'est d'une part l'agriculture, et il y a encore en Toscane et en Ombrie des régions, la Val di Chiana par exemple, entre Arezzo et Pérouse, qui sont d'une richesse, d'une fertilité agricole extraordinaire. Et puis ce sont surtout les métaux, et en particulier le fer. L'île d'Elbe, mais ça n'est pas le seul endroit en Étrurie, était considéré comme une sorte de mine de fer dans la mer, et de très très nombreux textes nous parlent de cette richesse extraordinaire.
Il y a aussi une très belle production de bronze, de vaisselle de bronze tout à fait formidable, typique, caractéristique, qui permettent vraiment du premier coup d'œil d'identifier la culture étrusque. Hein.
Alors du coup, il y a effectivement, certaines cités ont été spécialisées, par exemple, j'évoquais Arezzo à l'instant, de très grands bronzes, même de véritables chefs-d'œuvre de bronze ont été créés, le plus connu étant celui qu'on appelle la chimère d'Arezzo, ce monstre de bronze qui est aujourd'hui au musée archéologique de Florence et qui est souvent considéré comme le symbole de l'art étrusque.
Alors les Étrusques sont aussi surtout connus pour leur extraordinaire nécropole aristocratique, bien entendu.
Oui, enfin, aristocratique, mais pas seulement. Si on prend le 7e siècle, ce que l'on connaît mieux, ce sont évidemment les tombes princières, les tombes aristocratiques, parce que ce sont elles qui nous ont donné le mobilier le plus beau, et à des époques où l'archéologie, ça consiste surtout à trouver des objets qu'on peut ensuite exposer dans des collections privées et puis des collections publiques, ce sont les recherches qui ont été faites. Mais c'est vrai que à Cerveteri ou dans bien d'autres cités étrusques, on a trouvé des tombes à l'époque orientalisante, surtout donc au 7e siècle avant notre ère, d'une richesse extraordinaire. Hein. Le musée grégorien étrusque du Vatican a vraiment été ouvert et inauguré en 1837, après la découverte de la tombe Regolini-Galassi à Cerveteri, hein, qui date du milieu du 7e siècle avant notre ère, et qui avait un mobilier en or, en argent, en bronze, en ivoire, sans parler des céramiques évidemment, absolument fastueux.
Et puis aussi, on ne peut pas passer sous silence les extraordinaires peintures, un art rupestre très particulier, le premier chapitre de la peinture italienne.
Alors ce sont les tombes peintes, en particulier de Tarquinius. C'est d'autant plus important, il faut toujours le rappeler, que la grande peinture grecque classique de la même époque, c'est-à-dire du 6e, du 5e et du 4e siècle avant notre ère, a totalement disparu. Tandis que les Étrusques, eux, ont eu la riche idée d'avoir des hypogées, c'est-à-dire d'avoir des tombes creusées dans le rocher, creusées dans le tuf volcanique, en particulier en Étrurie méridionale, et de décorer les murs de ces tombes de fresques qui ont été presque parfaitement conservées jusqu'à leur découverte moderne.
Au travers de ces peintures, le peuple étrusque semble joyeux, on peut dire ça. Musique, danse sont très présentes. Les jeux aussi, je sais que votre doctorat d'état portait sur les jeux athlétiques dans la civilisation étrusque.
Oui, beaucoup de représentations sportives, tout ça semble très joyeux, encore que parfois il y ait des scènes un petit peu plus dures à supporter, puisqu'on voit des sortes de sacrifices avec des personnages qui sont en train de perdre leur sang, mais il ne faut pas oublier quand même que nous sommes dans des tombes, et que en réalité c'est tout le rituel funéraire qui est représenté ici, des danses, des banquets, des jeux effectivement, mais n'oubliez pas que les Étrusques là ne sont pas les seuls à avoir eu ces pratiques. Il suffit de lire Homère, le chant 23 de l'Iliade, les jeux funéraires en l'honneur de Patrocle, pour se rendre compte que ce type de rituel existait aussi en Grèce.
Donc des sports comme la boxe, la course de chars.
Oui, alors les courses de chars et le pugilat, la boxe, semblent avoir été les sports les plus souvent représentés, en tout cas les plus importants en Étrurie. D'ailleurs, nous avons un texte de Tite Live qui parle expressément en latin des équis et des pugiles que l'on avait, c'est-à-dire des chevaux et des boxeurs, que l'on avait fait venir principalement d'Étrurie. C'est tout à fait révélateur.
Jean-Paul Tullier, dans quelles conditions disparaît définitivement cette civilisation étrusque ?
Alors du point de vue politique, je donnais la date tout à l'heure, c'est en 264 avant notre ère que la dernière cité étrusque indépendante, Volsigny en latin, et qui en fait est l'actuel Orvieto, est conquise par les Romains. C'est l'absence d'unité entre les cités étrusques qui a permis à Rome finalement de phagocyter chaque cité étrusque l'une après l'autre. En plus, il y avait des troubles sociaux à l'intérieur de ces cités qui ont encore facilité la tâche des Romains. Mais on ne peut pas dire que la civilisation étrusque disparaisse pour autant. On a continué à parler étrusque, on a continué, si je puis dire, à produire étrusque. Il y a un artisanat étrusque encore pendant les deux siècles qui suivent. Et c'est simplement au début de l'Empire romain, au tout début de l'Empire romain, que les dernières inscriptions étrusques apparaissent. Certains continuaient sans doute à parler l'étrusque à ce moment-là, mais nous en avons de moins en moins de traces.
Dans les années 50, plus personne ne parle étrusque ?
Alors ça, on ne le sait pas exactement, mais nous n'avons plus aucun document qui soit rédigé en étrusque à ce moment-là. Mais l'empereur Claude, qui était un grand étruscologue, parlait peut-être l'étrusque, en tout cas lui disposait peut-être de documents rédigés en étrusque.
Jean-Paul Tullier, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre livre, Les Étrusques aux éditions Duchesne. La semaine prochaine, le Salon Noir sera consacré à Qumran avec Estelle Villeneuve et Jean-Baptiste Humbert. Le Salon Noir était réalisé par Brigitte Aléo à la technique Viviane Chex. Rappelons aussi que le Salon Noir est une coproduction France Culture sous direction des sciences sociales et de l'archéologie du ministère des Affaires étrangères, sous direction de l'archéologie archétiste du ministère de la Culture.